Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Étienne-Alexandre Beauregard, essayiste de son dernier livre, Le retour des bleus. Monsieur Beauregard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Labrec.
Bienvenue, premièrement. Étienne-Alexandre Beauregard, si je peux me permettre, faisons votre bio rapidement. J'ai dit que vous êtes essayiste, vous venez de publier le 22 janvier, je me trompe?
Oui, c'est ça.
Précisément, donc c'est disponible dans la librairie Le Retour des Bleus, les racines intellectuelles du nationalisme québécois. Aux éditions Libère, vous aviez publié précédemment en 2022 Le schisme identitaire, guerre culturelle et imaginaire québécois. C'est bien ça, chez Boréal, hein, j'habite. Oui. Chroniqueur, vous êtes aussi où vous avez été? Vous êtes encore? Non, mais vous l'avez été, chez oui. Cube Radio. Vous avez couvert les élections françaises, d'ailleurs. On s'était rencontrés un peu la première fois là, dans ce contexte. Vous êtes étudiant, vous avez terminé le bac sciences politiques et philosophie et vous êtes à la maîtrise.
Oui, désormais en administration publique.
En administration publique.
À l'ENAP, oui.
Ah bon, félicitations. J'ai fait de ma maîtrise en administration publique aussi. Mes condoléances, non, c'est pas vrai. Non, c'est une très bonne idée. Si je peux me permettre une pré-question, en fait, on s'était rencontrés à Paris la première fois. Donc, vous avez passé quoi, la moitié d'une année à Paris à étudier.
Oui.
Que retirez-vous de cette expérience?
La France, c'est quand même un endroit particulier pour ce qui est des débats d'idées. C'est un peu convenu, mais c'est quand même un peu vrai. Les débats d'idées au Québec sont peut-être plus contraints. Ils n'ont certainement pas la même place qu'ils peuvent avoir en France, où il y a tout un réseau d'émissions de télévision, de radio, de journaux qui sont pratiquement tous consacrés à la vie des idées, avec aussi une grande diversité de points de vue. T'sais, moi, c'est ce qui m'épatait quand même pendant ces 6 mois-là, où tu peux marcher devant un kiosque de journaux, puis tu vois à peu près 30 hebdomadaires avec toutes des lignes différentes. Il y a quelque chose de vraiment passionnant là-dedans. Puis c'est, pour un Québécois, en tout cas, c'est quand même assez exotique, dans la mesure où on a quoi, 4-5 journaux, puis les magazines qui sont consacrés à la vie des idées, qui sont consacrés à l'information, c'est marginal quand ça existe. Donc, c'est peut-être, il y a un tropisme français vers les idées aussi, mais il y a leur plus grande population aussi qui leur permet d'avoir une vie intellectuelle qui est peut-être plus sophistiquée, sans diminuer la vie intellectuelle québécoise, mais certainement à la mesure d'un pays de 80 millions d'habitants. Fait que probablement qu'à ce niveau-là, c'est quand même inspirant, puis je comprends pourquoi il y a autant d'intellos au Québec qui vont un peu se ressourcer en France, entre guillemets.
J'allais justement poser la question des intellectuels québécois qui vont se ressourcer en France. J'ai l'impression qu'ils se retrouvent souvent, ce qu'on pourrait qualifier là, de la droite ou un peu plus conservateur, disons au Québec. Disons que j'ai l'impression que la gauche québécoise puise ses inspirations plutôt aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, tandis que les intellectuels, donc plus conservateurs, là, oui, québécois et nationalistes surtout, ça peut s'expliquer, mais vont surtout aller puiser leur inspiration intellectuelle, comme j'ai dit, en France. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est une observation qui est peut-être erronée?
Non, je pense que vous avez raison. Puis l'intérêt, en fait, c'est là qu'on arrive au sujet de mon livre, un peu entre la convergence entre le conservatisme et le nationalisme au Québec. Parce que si on regarde des conservateurs, entre guillemets, qui sont davantage libertariens, que j'aborde en partie dans le livre, c'est sûr que c'est des gens qui sont davantage marqués par la droite anglo-américaine. Parce que c'est effectivement une droite qui est plus axée vers des idéaux de liberté, de libre entreprise, etc., qui sont d'ailleurs souvent le propre du monde anglo-américain, parce que dans le monde européen, puis vous avez écrit un livre sur le conservatisme, je vous apprends rien, on a un conservatisme qui est peut-être plus proche du Québec dans la mesure où c'est quelque chose qui est davantage axé sur une certaine vision de la culture, de la nation, etc. Puis c'est clair aussi que pour des nationalistes québécois, l'intérêt de la France est évident dans la mesure où, quand on vise à faire vivre un peu une espèce de présence française en Amérique du Nord, mais c'est normal qu'on ait une certaine admiration puis une certaine affection aussi pour la France dont c'est issu. Je pense qu'à travers notre modèle de société, à bien des égards, on ressemble beaucoup à l'Europe, puis autant dans nos débats d'idées parfois qui ne sont pas les mêmes qu'au Canada anglais ou aux États-Unis. Donc, je trouve ça tout à fait cohérent que ce soit le cas pour les nationalistes. Puis si on mentionne effectivement les progressistes, à l'inverse, bien, comme je vous dis, ça rejoint un peu les thèmes de mon livre, dans la mesure où, pour moi, c'est un peu le clash entre Durham et Garneau, qui est, à mon avis, le point de genèse du clivage entre les rouges et les bleus. On a Durham qui dit essentiellement que la différence québécoise ne pourra jamais s'épanouir pleinement en Amérique du Nord parce que c'est un contexte justement anglo-américains et que c'est ce modèle-là, en fait, qui devrait s'imposer au Québec, même pour le bien des Québécois et des Canadiens français, alors qu'à l'inverse, Garneau, il situe son conservatisme justement dans la défense d'un héritage modifié, évolué, etc., mais quand même un héritage français en Amérique du Nord. Donc, c'est tout à fait cohérent, en fait, puis très logique que ceux qui vont défendre peut-être un arrimage au modèle politique anglo-américain puisent leur référence là-bas, tandis que ceux qui cherchent à faire vivre une espèce de mémoire française francophone puisent leur référence en France.
Oui, tout à fait. Bon, on entre dans la thèse de votre livre, Le retour des Bleus. Pouvez-vous nous définir un peu plus ce que sont les Bleus et les Rouges, premièrement? Parce que vous les définissez d'une façon très apte dans votre livre, mais je crois que c'est peut-être pas nécessairement très accessible pour tout le monde comme concept, vu qu'on est peut-être, on en parlait juste avant, là, encore dans une dichotomie souverainisme-fédéralisme. Donc, pouvez-vous nous parler de la thèse de votre livre et définir un peu plus là, ce que sont les Bleus et les Rouges?
Oui. Donc, quand je parle des Rouges et des Bleus, c'est une certaine manière, en fait, de changer un peu de point de vue sur la manière dont on voit nos débats idéologiques au Québec. Parce que, comme vous le dites, le clivage entre souverainistes et fédéralistes, est encore pertinent sur la scène politique. Il y a encore des partis, il y a encore des partisans qui se définissent d'abord avec cette question-là. Mais, je choisis de changer le point de vue pour être capable d'avoir un autre regard sur la joute politique québécoise. Je pense que c'est d'autant plus pertinent dans la mesure où on a, depuis 2018, un gouvernement qui est nationaliste, mais qui n'est pas indépendantiste. Donc, je pense que ça vaut la peine quand même de théoriser puis de se poser la question qu'est-ce qu'être un nationaliste. Et donc, c'est ça un peu le clivage entre les Bleus, qui sont globalement les nationalistes québécois, et les Rouges, qui sont leurs adversaires. Et pour moi, ça se définit d'abord sur la question du rapport à la nation. Et c'est en fait pour ça que mon premier chapitre est très philosophique, c'est vraiment dans les idées et sur la conception que chacun va avoir de la nation. Parce que est-ce que la nation, c'est une source de repères? Est-ce que c'est un phare? Est-ce que c'est une boussole qui doit orienter, en fait, le progrès du peuple québécois et sa manière de s'inscrire dans le monde? Ou, à l'inverse, est-ce que c'est une espèce de chape de plomb? Est-ce que c'est des chaînes dont il faudrait se libérer pour être, pleinement originaux, pleinement individuels, pleinement émancipés? Donc, c'est vraiment deux regards, en fait, sur le passé, deux regards sur l'héritage. Et ma thèse, essentiellement, c'est que les Bleus, qu'ils soient autonomistes ou souverainistes par ailleurs, s'ils tiennent à faire vivre une certaine idée du projet québécois, c'est parce qu'ils conçoivent justement l'héritage dont ils sont dépositaires de manière positive, puis comme une richesse qui mérite d'être continuée. Tandis que les Rouges, puis c'est pas un point de vue que je tiens à démoniser, même si, évidemment, ce n'est pas le mien. C'est la vision progressiste selon laquelle, la tradition, ça peut être aussi un enfermement. Puis probablement que si on vivait dans une espèce de pré-modernité, dans un régime réactionnaire où on n'était pas dans une dynamique... dans l'ancien régime, où on n'était pas dans une dynamique de progrès constant de toute façon, peut-être effectivement qu'on pourrait ressentir nos appartenances comme des enracinements. Mais je pense que dans la démocratie libérale moderne, qui est un régime justement moderniste, progressiste, etc., on a besoin de ce contrepoids-là, qui est le conservatisme aussi, qui est l'attachement, qui est l'enracinement, pour être capable d'avoir peut-être une relation plus équilibrée avec le monde.
Quand vous parlez des Bleus, vous incluez René Lévesque, en fait, vous incluez Duplessis aussi, même jusqu'à, les rébellions. Mais en parlant de Lévesque, ce qui est innovateur comme thèse, je crois que il y a quand même eu des discussions autour de ce sujet, mais c'est que vous incluez René Lévesque, le Parti québécois, qui était quand même très à gauche, point de vue économique surtout, dans ce mouvement conservateur, comme vous l'avez dit, pour maintenir la nation. Ça va quand même à l'encontre, je dirais, de ce que notre façon de percevoir le PQ et surtout la Révolution tranquille qui était perçue encore aujourd'hui très largement comme étant de gauche. On se rappelle que Lévesque disait qu'il y avait un parti pris pour les travailleurs, donc c'est sûr qu'il y avait un imaginaire, j'ai envie de dire, gaucho-communiste, peut-être pas communiste, là, on exagère, mais il était quand même très à gauche. Pouvez-vous nous dire un peu comment René Lévesque, le Parti québécois, et tout le mouvement souverainiste depuis, et on va parler dans le nationalisme aujourd'hui, quoique ça a changé dernièrement, rentre dans votre définition de ce qu'est le conservatisme?
Oui, c'est intéressant que vous posiez la question parce que ça permet de faire une espèce de généalogie plus longue du courant bleu puis d'expliquer comment je pense que le mouvement souverainiste, surtout à l'époque où le Parti québécois était clairement le parti dominant dans le courant bleu, a pu en être une manifestation contingente. C'est-à-dire que, je l'évoquais tout à l'heure, je parlais de François-Xavier Garneau, qui est notre premier historien national, et qui est, à mon avis, d'une certaine manière, un peu le fondateur du courant bleu. Parce que pour bien apprécier la pensée de Garneau, il faut parler un peu de Durham. Puis je l'ai mentionné tout à l'heure, mais Durham, c'était pas un conservateur, c'était pas un raciste, c'était pas un réactionnaire. Au contraire, c'est un élève de John Stuart Mill, l'auteur de La Liberté, entre autres, et qui est encore aujourd'hui un des penseurs du libéralisme progressiste les plus cités. Et Mill, en fait, il concevait la tradition, concevait la culture, concevait les appartenances comme des chaînes pour l'individu. Et pour lui, une fidélité qu'on ferait seulement répéter de génération en génération, pour lui, c'est un espèce de dogme mort qui doit mourir parce que contraire à la liberté de penser, parce que contraire à l'innovation. Donc, peut-être de cette manière-là, on comprend mieux pourquoi Durham, quand il arrive au Canada français et qui voit un peuple qui est attaché à ses traditions, qui s'est même battu, qui a pris les armes pour les défendre, tout en défendant une certaine idée de la démocratie. Il voit ça, il dit « Ben moi, je suis d'accord avec l'agenda démocratique des patriotes, mais ils ont fait l'erreur de l'ancrer dans une revendication nationale. » Et il dit donc « L'erreur de Papineau, ça a été ça. Et si on veut que le projet démocratique soit achevé au Canada français, ben il faut qu'ils se séparent de leurs enracinements puis de leurs attachements. » Et donc, la réaction de Garneau par rapport à ça, c'est de dire, ben, vous avez tort, M. Durham, en pensant que la nation est un frein à la modernité, à la démocratie. Et si c'est ça la vision que les Anglais, entre guillemets, ont à nous proposer, ben alors restons fidèles à nos traditions et trouvons le progrès, trouvons la démocratie qui nous convient par nous-mêmes. Et donc, les relais politiques de cette idée, par la suite, une fois que la Confédération est installée, on a des gens comme Honoré Mercier, par exemple, qui va dire il faut lier le destin du peuple canadien-français à celui de la province de Québec. Donc, c'est dire que l'État du Québec a un rôle particulier envers cette humanité particulière qu'il porte en lui, la nation québécoise, avec son héritage francophone, sa vision du monde, et donc que cet État-là a un rôle à jouer et que c'est pour ça que son autonomie est importante. Et Maurice Duplessis ne dira pas autre chose. Et c'est là qu'on vient à la question de la Révolution tranquille. C'est-à-dire que Maurice Duplessis, une citation que j'aime beaucoup de lui, quand il dit, dans le vocabulaire de l'époque, bien sûr, la province de Québec, c'est notre forteresse qu'il faut défendre sans défaillance parce que c'est le seul endroit où on est capable de faire nos lois selon notre caractère propre, d'avoir nos écoles pour enseigner notre histoire dans notre langue. Et, cette vision-là, elle a quand même inspiré la Révolution tranquille par après. Puis c'est peut-être quelque chose d'assez audacieux, non orthodoxe, de dire que d'une certaine manière, le sage est un descendant de Duplessis. Mais le sage a pris le projet que portaient les libéraux contre Duplessis, qui était celui d'un État-providence, mais s'est rendu compte que les Québécois ne voudraient pas d'État-providence tant et aussi longtemps que ce ne serait pas fait sous le signe de l'État-nation. C'est pour ça que le sage, quand il a défendu ce projet-là, il le faisait dans un plaidoyer nationaliste. Il disait « L'État québécois, c'est le levier le plus important de la nation canadienne-française, comme on disait encore à l'époque, et ne pas s'en servir, ce serait criminel, ce serait se priver du plus grand outil vers notre libération. » Puis de cette manière-là, il a complètement changé le discours et plaidoyer qui était pour l'État-providence chez Adélard Godbout, par exemple, qui se faisait en collaboration très, très étroite avec le fédéral. Godbout, hein, qu'on se souvient qu'il a même laissé des pouvoirs à Ottawa pendant la Seconde Guerre. Et tout ça pour dire que cette vision-là, elle est continuée à travers René Lévesque, qui d'ailleurs était député sous le sage, était même ministre.
Ministre, oui.
Et Lévesque, quand il dit dans Option Québec, son premier manifeste pour l'indépendance, il dit « Le Québec, c'est le seul endroit où il nous est possible d'être vraiment chez nous. »
Ça aurait pu être Duplessis.
Ben exactement, ouais. Ça aurait pu être Duplessis. C'est-à-dire que c'est la même idée qui s'est continuée. Puis il y en a par le passé qui ont utilisé justement ce clivage-là de rouge et de bleu. Puis je commence dans l'intro avec ça. Des gens comme Claude Ryan, comme Pierre Pétigroux, qui étaient des rouges endurcis et qui se servaient de ça un peu pour agacer les péquistes à l'époque en leur disant « Ah, voyez, vous êtes la suite de l'Union nationale. » Puis bon, on devine que justement les péquistes avec leur côté plus de gauche sur l'économie, ce qui les empêchait pas d'être conservateurs sur l'identité, puis dans ma bouche, c'est vraiment pas un reproche, ça les mettait un peu plus mal à l'aise. Mais maintenant, je pense que quand on est passé à une époque où, du moins en nombre de sièges, le parti nationaliste le plus important, c'est un parti qui se dit de centre ou de centre-droit et qui se dit autonomiste davantage que souverainiste. Mais je pense que ça permet aussi d'apprécier la continuité avec cette idée-là qui remonte à bien avant les années 60 puis avant l'émergence du projet d'indépendance. C'est-à-dire que tout l'imaginaire, ce qu'on peut appeler un peu le projet bleu qui était derrière ce projet-là, il existait bien avant. Puis c'est ça un peu la généalogie philosophique que je veux faire avec mon livre.
La Révolution tranquille et, bon, le sage et l'évêque en particulier auraient lié, ben, d'après vous, L'État-providence découle de ce fonds conservateur qui veut utiliser la nation pour préserver, l'État pour préserver la nation. Je crois qu'on, des fois, on aurait peut-être inversé la logique. À une certaine époque, on aurait dit que c'est plutôt l'État, comment dire, le souverainisme à l'époque de l'évêque étant gauche a voulu créer une souveraineté de gauche, si on peut dire, ce qui aujourd'hui se perpétue avec Québec solidaire. Là, je pense que Québec solidaire, peut-être, mais le PQ encore aujourd'hui très largement, par contre, a quand même maintenu cette idée d'une social-démocratie, donc une souveraineté plus à gauche. Mais ce que j'allais dire, c'est que quand vous parlez des progressistes, les rouges, en gros, et j'ai eu le sentiment en lisant votre livre qu'ils essaient de séparer l'État des Québécois parce qu'ils se sont bien rendus compte que l'État est l'outil principal, vous l'avez mentionné, le levier principal pour la souveraineté. Est-ce que je me trompe?
Non, vous avez tout à fait raison. Puis d'ailleurs, je pense que ça permet aussi de refaire une petite mise au point sur ce que j'entends par progressiste. Tu sais, pour moi, quelqu'un comme René Lévesque, puis là-dessus, je ne suis pas très original, je m'inspire d'historiens comme Xavier Gélina ou Éric Bédard, qui ont sensiblement dit la même chose avant, c'est un conservateur de gauche. D'ailleurs, dans votre livre, je me souviens, vous faites un entretien avec Jacques Beauchemin, qui dit, d'une certaine manière, le nationaliste québécois, dans sa dimension conservatrice, est-ce que ce ne serait pas un des conservatistes les plus à gauche en Occident.
Vous le citez dans le livre.
Oui, ouais. Puis, parce que je pense que c'est une phrase qui veut dire quelque chose. Dans la mesure où ma définition du conservatisme, qui est la préservation d'un héritage, c'est pas une politique qui est exclusivement étatiste économiquement ou libérale sur le plan de l'économie. Pour moi, il peut y avoir des conservateurs de gauche ou de droite. Puis je pense que le fait qu'on puisse retrouver des gens comme Maurice Duplessis et René Lévesque dans le même camp idéologique que j'appelle bleu en est la preuve. Maintenant, sur la question de la Révolution tranquille, c'est vraiment sur l'aspect, justement, État-nation, qu'effectivement, les Rouges, puis en fait, les porteurs du projet, disons, libéral multiculturaliste, souhaitent effectivement divorcer l'État d'un certain arrangement social, culturel, national. Puis ça, c'est pas seulement au Québec et au Canada. C'est la doctrine libérale qui dit que l'État, ça doit être une espèce d'instrument dépersonnalisé où tous les gens se retrouvent fondés sur leurs différences, donc qu'il n'y a pas, en fait, de lien entre l'État et la nation. Et quelqu'un comme Pierre Trudeau, par exemple, s'en revendiquait. Il disait qu'il faut faire le divorce entre l'État et la nation. Parce que, faut se rappeler, Trudeau était quand même un espèce de traumatisé de la période du plessiste. Puis ça explique un peu son hostilité très virulente à l'endroit du nationalisme. Parce que pour lui, le nationalisme, c'est une espèce d'obscurantisme, de défense du statu quo, puis au final, d'oppression pour les citoyens. Et lui voyait, en fait, dans la continuité de cette doctrine-là, même d'une manière renouvelée avec des sociodémocrates comme le Parti québécois, pour lui, c'était seulement une continuation de cette vision-là oppressive qui mettait, en fait, des ornières nationales aux gens. Et un autre penseur que j'aime citer dans ce contexte-là, c'est Jean-Pierre Darianic, un ancien professeur de sciences politiques à l'Université Laval, qui disait dans son livre « Nationalisme et démocratie », l'État à l'avenir doit être anational comme l'État laïque et areligieux. Donc, c'est vraiment de faire, en fait, d'en finir avec le modèle de l'État-nation pour casser ce rôle culturel que l'État a envers la nation dans la plupart des endroits et où c'est le cas au Québec depuis à peu près toujours puis encore aujourd'hui.
Ce qui est paradoxal, c'est que vous dites que les rouges, donc je résume en disant les progressistes ici, là, les libéraux de ce côté, du point de vue philosophique, quoi, les libéraux, le parti ou les partis, veulent dissocier l'État de la nation. Mais j'ai l'impression qu'ils essaient de construire une nouvelle, une espèce de néo-nation avec l'État. Quand on regarde l'état des choses et les partis politiques, bon, oui, on peut penser au Parti libéral du Canada en particulier, là, qui est peut-être le meilleur exemple en ce moment, surtout que Trudeau est bien connu pour avoir mentionné que le Canada était le premier pays post-national. Et j'ai l'impression que, c'est une observation plutôt, qu'ils utilisent maintenant l'État pour achever, si on veut, leur idée idéologique en l'imposant par l'État. Donc, c'est un peu comme s'ils avaient subtilisé l'État qui était, ou qui aurait pu être, à une certaine fois, qu'il l'a encore dans différents pays, notamment au Québec, là, une expression du peuple, si on peut, une représentation du peuple et de sa volonté collective. Comment est-ce que vous expliquez la chose?
Ouais, d'abord, je trouve que votre constat est tout à fait juste. Dans la mesure où la nature a horreur du vide, hein, c'est un peu le paradoxe du libéralisme, sa neutralité n'est jamais vraiment neutre dans les faits. Et en fait, dans le dernier chapitre qui porte un peu sur le lien entre progressisme et impérialisme, qui résume en fait le constat que vous venez de dresser, et je fais un espèce de parallèle entre Durham et Francis Fukuyama dans son livre « La fin de l'histoire et le dernier homme », dont on a beaucoup parlé, mais que peu de gens ont lu, malheureusement. Fukuyama, quand il parle de l'État libéral achevé, il appelle ça l'État universel et homogène. Justement, un État où on ne voit que des individus, où la culture n'est plus importante. Mais Fukuyama, c'est quand même un réaliste. C'est-à-dire qu'il voit bien que la culture est importante pour les individus, que les individus sont des êtres qui sont enracinés, qui vont quand même souhaiter à ce que leur particularité soit représentée, puis plus encore dans le cas d'une nation minoritaire comme le Québec. Et c'est pour ça qu'il dit l'État universel et homogène, qu'on pourrait dire un peu la représentation parfaite du progressisme libéral, multiculturaliste, etc. Fukuyama le dit ouvertement, il dit c'est un État qui va être en lutte perpétuelle avec son propre peuple. Parce que pour atteindre cette espèce d'individu abstrait et déraciné que le libéralisme croit voir, bien, il doit le créer de lui-même parce que les gens ont des attachements, ont des appartenances qui ne sont pas prêts à laisser tomber comme les idéologues libéraux voudraient que ça arrive. Donc, effectivement, que le projet qui se veut descriptif, qui dit que les individus sont des gens abstraits, finalement devient rapidement normatif et dit que les individus devraient être abstraits. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on peut effectivement mobiliser la force de l'État, mobiliser les politiques publiques pour que ce projet-là advienne dans les faits parce qu'il n'existe pas dans la réalité.
Tout à fait. Vous parlez aussi d'un nationalisme post-souverainiste. Pouvez-vous nous dire un peu ce que vous entendez par là?
Oui, mais quand je parle d'un nationalisme post-souverainiste, c'est dire, en fait, essayer de comprendre un peu le moment que le Québec traverse en ce moment. C'est-à-dire que la question de la souveraineté avec la montée du Parti québécois est revenue dans l'espace public, mais je pense que ce qui a quand même donné la bougie d'allumage du regain et du retour des Bleus dont je parle dans mon livre, c'est l'élection de la coalition d'un Québec, on ne se le mentira pas, qui a revendiqué le thème de l'identité, qui a revendiqué le thème du nationalisme et qui a commencé à faire des choses qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis la loi 101, c'est-à-dire de continuer ce projet-là, de bâtir l'État québécois avec, comment dire, un projet culturel. Pour moi, la loi 21, ça s'inscrit là-dedans. C'est de défendre quand même une vision du vivre ensemble qui est propre au Québec et de l'inscrire dans nos lois. Et d'une certaine manière, la loi 96, qui est un renforcement de la loi 101, va dans la même idée. Quand on va en immigration, par exemple, pour resserrer les critères linguistiques, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on utilise l'État québécois pour faire en sorte qu'il perpétue une certaine idée du Québec, une certaine idée du Québec francophone, et que, en fait, les leviers étatiques soient mobilisés pour ça, justement, parce que, comme je disais, la nature a horreur du vide, et qu'à ce moment-là, c'est normal d'orienter nos politiques pour préserver cette idée du Québec qu'on veut conserver. Puis à ce moment-là, c'est sûr que la construction de l'État québécois, du projet québécois, prend peut-être le dessus en importance sur la forme politique dans laquelle il va s'incarner, que ce soit une forme fédérale ou une forme souveraine. Puis à ce moment-là, c'est pour ça que quand je parle des Bleus, par exemple, j'inclus quelqu'un comme Camille Lorrain. Puis moi, je pense quand même que c'est la plus grande victoire du courant bleu dans l'histoire du Québec, que d'avoir réussi la loi 101, de la Charte de la langue française, effectivement, parce que
avant un référendum, d'ailleurs.
Oui, avant un référendum. Et c'est pour ça qu'on peut parfois avoir une tension entre l'agenda bleu. Moi, je ne pense pas qu'ils sont irréconciliables, bien au contraire. Les souverainistes nous en ont fait la preuve à moult reprises. Mais il peut y avoir une tension dans la chose. T'sais, il y a toujours eu une aile un peu, mais en fait très radicale du mouvement indépendantiste, qui reprochait à Camille Lorrain d'avoir fait la loi 101. Qui disait, est-ce que ça n'aurait pas, d'une certaine manière, donner un sentiment de fausse sécurité aux Québécois et donc hypothéquer le succès du référendum. Mais ça, c'est l'inverse d'une logique qui serait bleue et qui viserait avant tout le projet. T'sais. C'est le projet substantiel plutôt que le régime qui va le porter. T'sais. Puis moi, c'est sûr que, considérant les 50 dernières années d'histoire du Québec, je ne pense pas que c'est une perspective qui est gagnante de tout miser sur ce moment-là en disant chaque progrès va hypothéquer l'atteinte d'un...
On s'impose l'impuissance avant la grande soirée, finalement.
Bien, c'est une approche qui, je pense, n'a pas donné les résultats. Bien, la preuve, le Québec est encore dans le Canada. Et à l'inverse, tous les gestes que les nationalistes, que ce soit Lorrain ou que ce soit plus contemporain avec le gouvernement de la CAQ, ont fait pour bâtir l'État québécois tel qu'il est en ce moment, ça fait seulement renforcer le Québec. Donc, à ce moment-là, moi, je pense qu'on... Le mouvement nationaliste n'a rien à perdre à continuer de construire à ce moment-là, surtout dans la mesure où la majorité des Québécois ne semble pas être pour l'indépendance. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on n'aurait pas raison de s'appuyer sur les 60-70% de Québécois qui adhèrent globalement à ce que j'appelle la vision bleue pour construire l'État québécois dès maintenant? Puis après, qu'est-ce qui arrivera de son statut politique? La question demeure ouverte, mais l'important n'est-il pas de renforcer le projet puis la raison derrière ce projet-là?
Oui, tout à fait. On parle beaucoup de gauche-droite, progressiste, conservateur. J'ai envie d'appliquer votre thèse au Canada, en fait, donc à l'extérieur du Québec, ce qu'on appelle le ROC en anglais. Est-ce que les Rouges ont complètement gagné la bataille dans le reste du Canada ou est-ce qu'il y a encore une espèce de confrontation, à savoir un combat de boxe, à savoir qui va l'emporter? Ou est-ce que le côté bleu, si on veut, du Canada, ce qui voudrait dire un attachement quelconque à une identité canadienne qu'on a vu un peu sous Harper, qui remonte à une espèce d'attachement, à mon avis, un peu bizarre, mais compréhensible à la couronne britannique, à l'héritage britannique-canadien, bien sûr, qui partage par relativement peu de Canadiens, je crois, aujourd'hui, d'après moi. Mais est-ce que le débat idéologique, philosophique, cursif, si on peut dire, à votre avis, là, je sais qu'on sort des confins de votre livre, mais la question m'intéressait parce que, basé sur les différentes conversations que j'ai avec différentes connaissances, des amis, des gens qui pensent à ce genre de choses, on a l'impression, du point de vue du Québec, que le débat est fini au Canada. Dans le reste du Canada, il n'y a que le Québec qui se pose encore la question. Le Canada anglais, lui, est passé dans ce que, encore une fois, le Trudeau appelait le Canada post-national. Est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'à votre avis, le débat est encore présent et ce qu'on appelle justement le Canada post-national n'est peut-être pas aussi achevé et abouti qu'on voudrait le croire?
Bien, c'est une question qui est plus complexe qu'on pourrait penser à la base. En fait, j'ai consacré un chapitre à cette question-là dans mon précédent livre, « Le schisme identitaire », où je m'intéressais justement à cette frange qu'on pourrait appeler les nationalistes conservateurs canadiens, qui intellectuellement sont malheureusement un peu choses du passé. Mais je pense à des intellectuels comme Donald Creighton, qui est le biographe de John McDonald, à des intellectuels comme George Grant, qui est un défunt professeur de McGill, qui a écrit Lament for a Nation, qui est un livre assez marquant au Canada anglais, qui est probablement...
Un des grands livres de la politique canadienne, à mon avis.
Tout à fait, qui est probablement le dernier plaidoyer vraiment nationaliste conservateur pour le Canada. Et le paradoxe, c'est que quelqu'un comme Grant avait un immense respect pour René Lévesque, pour les nationalistes québécois, parce qu'il les regardait et il disait, bon, voilà au moins des gens qui ont quelque chose à défendre. Et je pense que ce courant-là n'est peut-être pas aussi mort dans la population qu'on pourrait le penser. Parce que quand on regarde les sondages, en fait, les enquêtes d'opinion au Canada anglais, qu'on leur demande, bon, pensez-vous que, par exemple, l'immigration, on en fait peut-être trop avec M. Trudeau en ce moment? Pensez-vous que, finalement, la loi sur la laïcité du Québec, c'est pas une si mauvaise idée que ça? On a toujours une espèce de 40-45% qui est assez favorable à la chose. Mais la question, c'est surtout que dans les sphères intellectuelle, dans les sphères médiatiques, c'est une perspective qui est assez absente. Donc, rendu là, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une déconnexion entre la base anglo-canadienne, une certaine poche de résistance à cet idéal-là multiculturaliste, qui n'est pas reflétée autant dans les médias que dans les partis politiques? Parce que même quand on regarde le Parti conservateur du Canada, c'est difficile pour eux quand même de se trouver une identité politique qui n'est pas assujettie à l'imaginaire libéral. Parce qu'il faut dire que Pierre Trudeau a quand même reconfiguré le pays à son image en 1982 de manière très, très profonde, de telle sorte que le discours qu'on entend le plus souvent au Parti conservateur, c'est on va être le pays le plus libre au monde, on va être ceux qui vont libérer les gens, comme dit Pierre Poilievre, faire sauter les gatekeepers. Mais ça, philosophiquement, c'est un discours c'est libéral.
Libertarien,
presque. Ben voilà. Ouais. Quand j'aborde la mouvance libertarienne québécoise, surtout dans le retour des Bleus, je parle de progressistes de droite. Un petit clin d'œil amusant, mais c'est pour dire que parfois...
Il y a du vrai.
Dans la mesure où la défense des libres marchés, de la liberté économique, moi, j'ai strictement rien contre, mais est-ce que c'est quelque chose de conservateur au sens fort? J'en suis pas convaincu.
Non, tout à fait. Il y en a plusieurs qui ont établi un lien aussi entre les années 60-70, qu'on appellerait le mouvement hippie en Amérique du Nord au mai 68 en France, et le côté libertaire de la chose, donc interdire, jouir sans entrave, ce genre de slogan, qui peut se traduire en plus d'État, plus de règles, plus quoi que ce soit, à part vraiment le minimum possible, donc un peu de force policière, même le système de santé, je pense qu'il l'aurait pris, le privatiserait, du moins les... Le PCQ d'aujourd'hui, le Parti conservateur québécois, si on laisserait, je pense, aussi ces gens, là, les libertariens, pourraient mettre en place leur politique sur une privatisation en long et en large dans toutes les sphères. Mais il y a un lien qui s'est fait quand même, je crois, entre les libertaires de l'époque et les libertariens d'aujourd'hui. Ce qui est bizarre, parce que les libertaires de l'époque, mais 68 et hippie, auraient été très à gauche. Là. Tandis qu'aujourd'hui, on dirait qu'ils sont quasiment à droite.
Effectivement, puis ça pose quand même la question que je pose sur le libertarianisme québécois. Puis moi, c'est sûr que dans ce livre-là, c'est pas vraiment un livre qui est partisan. Comment dire, j'aborde assez peu les chefs de parti, ouais. Ces questions-là, c'est pas les questions qui m'intéressent. C'est vraiment un livre de philosophie politique. Puis à ce moment-là, c'est davantage les intellectuels qui m'intéressent. Mais quand on regarde, par exemple, les interlocuteurs de ce qu'on appelle familièrement la droite de Québec ou les libertariens québécois essentiellement, comment dire, c'est des gens qui semblent associer leur volonté de liberté économique avec la liberté identitaire.
Juste, parce que je pense que mettre le doigt sur quelque chose d'important.
Oui.
La droite de Québec est purement économique et les gens conservateurs qui sont de Montréal sont beaucoup plus identitaires. Ça, c'est quelque chose qui me frappe. Je suis de Montréal, donc je vais à Québec de façon sporadique, là, de façon ad hoc une fois de temps en temps. Mais ça me frappe. Dès que je sors de Montréal, les questions identitaires, je ne dis pas qu'elles sont évacuées complètement, mais sont beaucoup moins présentes. Sont numéro 5 ou 6 sur la liste des priorités, tandis qu'à Montréal, elles sont numéro 1 ou 2. Chez les gens qui se diraient plus conservateurs, tandis que les questions économiques pour les conservateurs montréalais sont importantes, mais sont, à la limite, sont proches de celles du Parti québécois. C'est la social-démocratie, en gros. Là. C'est pas des politiques libérales, là, dans le sens le marché libre et libéraliser différents marchés, privatiser tel ou tel la santé, principalement, et l'éducation aussi. Tandis qu'on arrive à Québec... Et ceux qui s'appelleraient conservateurs disent presque exactement le contraire. Comment est-ce que vous expliquez la chose? Parce que vous faites l'aller-retour en Montréal, donc vous avez peut-être une perspective meilleure que la mienne.
Bien, peut-être que là-dedans, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler les deux solitudes de la droite québécoise.
Hein? Ah, c'est vrai.
Et ce qui est intéressant, justement, avec les libertariens du Québec, que je respecte beaucoup intellectuellement, puis qui souvent sont capables de produire des choses assez stimulantes, mais qui sont quand même vues comme étant tout à la marge du débat public. Hein. Je veux dire, avant l'avenue du Parti conservateur du Québec, c'est des gens qui n'avaient pas, comment dire, un relais politique clairement identifié et souvent qui ont effectivement une aversion pour le nationalisme. Et moi, je pense qu'il y a peut-être, comment dire, un rapport au Parti québécois là-dedans. T'sais, peut-être que pour eux, ouais. Le nationalisme, c'est forcément le péquisme.
De gauche.
Donc, l'État-nation, c'est forcément l'État-providence. Et en fait, c'est un peu ça le reproche que je leur fais dans mon livre, parce qu'il y en a des exemples par le passé, puis souvent, c'est des gens qui vont parler en grand bien de Duplessis, par exemple, mais c'est comme s'ils oubliaient toute la partie identitaire de Duplessis. Ce qu'ils aimaient de Duplessis, c'est que le sage n'était pas encore passé. Mais est-ce qu'ils seraient prêts à revendiquer, justement, quand Duplessis dit que l'État québécois, c'est notre forteresse qu'il faut défendre parce qu'il a un rôle identitaire à jouer? T'as. Puis il y a une bio super intéressante qui est sortie l'an dernier de Jean-Philippe Carlos sur François-Albert Anger, qui est un
figure moins connue.
Oui, qui est une figure moins connue, mais qu'on gagnerait peut-être à connaître et que, notamment, nous, libertariens, gagnerait à connaître parce que c'est un professeur du HEC qui était notamment un des mentors de Jacques Parizeau. Et lui était à la fois farouchement de droite économique et farouchement nationaliste. Il était notamment contre la privatisation d'Hydro-Québec parce que... contre la nationalisation, en fait.
Ouais.
Parce que pour lui, ça aurait dû être des coopératives locales qui auraient géré ça. Il se méfiait d'une socialisation, parce que c'est bien ça qui est, quoi qu'on en pense. Au niveau de l'État, lui aurait préféré que ça soit géré de manière plus locale. Puis d'ailleurs, il y a un épisode tout à fait drôle qui est raconté dans le livre où M. Anger a poursuivi l'État fédéral pour ne pas recevoir une allocation famille parce que pour lui, il y avait quelque chose d'indigne que l'État le subventionne pour avoir une famille. Donc, tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui était très, très, très libertarien puis qui plairait sans doute à nos libertariens d'aujourd'hui, mais ça n'empêchait pas M. Anger d'abord d'être un indépendantiste convaincu et aussi de dire que la loi 101, pour lui, c'était la plus grande victoire du mouvement nationaliste en 200 ans d'histoire. Là. Donc,
malgré son étatisme.
Ben voilà, c'est dire que l'État-providence, c'est pas forcément l'État-nation. Puis à ce moment-là, c'est un peu ce que je reproche à nos libertariens, dans la mesure où ils sont pas condamnés à jamais à faire partie du courant rouge. Puis peut-être même qu'il y aurait des atomes crochus avec certains bleus, mais à ce moment-là, je pense que ça demanderait peut-être une révision de leur doctrine identitaire qui n'engagerait pas une révision de leur doctrine économique.
Tout à fait. Vous citez Gros. L'État ou les Québécois pourraient être, et je cite ici, absolument opiniâtrement eux-mêmes. Ce serait donc l'État québécois aujourd'hui. On n'a pas encore d'État souverain. On pourrait dire qu'on a une province, mais on voit que les tensions montent en flèche avec Ottawa. Plusieurs commencent à dire qu'on a atteint les limites de l'autonomisme. Je présume ici, là, mais il faudrait un État souverain pour être opiniâtrement nous-mêmes. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas nous-mêmes aujourd'hui pleinement? Psychiquement parlant.
c'est une excellente question. Mais comment dire, ce qui est intéressant dans le grouxisme, c'est que ce penseur qui a été ridiculisé, diabolisé, avili, tout à fait injustement, il y a des professeurs comme André J. Bélanger qui ont dit que le projet de Groulx, c'était une espèce de fantasme dématérialisé, purement idéologique et pas politique du tout. Mais quand on lit Lionel Groulx, ce qu'il dit, c'est justement les Québécois doivent s'approprier l'État québécois pour qu'il leur ressemble davantage, pour que les politiques renforcent leur identité. Et d'une certaine manière, même dans les années 30, Groulx prêchait déjà pour quelque chose comme la loi 101. Il disait, est-ce que ce ne serait pas normal qu'on ait des règles pour l'affichage afin que le visage du Québec soit manifestement français? Est-ce que ce ne serait pas normal aussi que la fréquentation de l'école française soit la base au Québec? Donc, je pense que c'est ça qu'il voulait dire quand il voulait dire un État où on peut être vraiment nous-mêmes, un État où les normes vont être arrimées sur la personnalité culturelle et identitaire du peuple québécois. Et de cette manière-là, en fait, Groulx, justement, qui est démonisé puis qui est vu comme étant penseur de la grande noirceur davantage que penseur de la Révolution tranquille, on se trompe là-dessus parce qu'au final, c'est à travers des personnages comme lui qu'on peut voir la continuité, en fait, entre ces deux époques. En fait, un peu le fil bleu, pas le fil rouge, qui relie ces deux époques-là, même si on ne l'a peut-être pas vu au moment même, mais quand on prend le recul, quand on est maintenant 60 ans plus tard, on est capable d'avoir justement cette perspective-là pour voir que finalement, il y a des constantes qu'on n'avait peut-être pas vues quand on voyait seulement les ruptures parce qu'on était dedans.
Vous parlez aussi d'un point de bascule, d'une période charnière. On parle bien sûr de la crise des accommodements raisonnables 2007-2008. Pour ceux qui s'en rappellent, ça fait quoi, presque 17 ans maintenant. Vous mentionnez cette période de l'histoire récente québécoise comme nous ayant projeté dans l'ère identitaire. Je cite ici l'ère identitaire. Qu'entendez-vous par là?
Bien, c'est-à-dire que la crise des accommodements raisonnables, ça a été un moment dans lequel je pense que justement on vit encore parce que ça a ramené la polarisation politique autour des questions d'intégration, autour des questions qui sont très culturelles avant d'être, comment dire, politico-constitutionnel. Puis ça a ramené, en fait, le clivage dont je parle entre les rouges et les bleus, parce que c'est là, en fait, à partir du moment où on se posait la question des accommodements, à partir du moment où on se posait la question de l'immigration, de l'intégration, du rapport au multiculturalisme canadien, que peut-être la dissociation entre les définitions très strictes de ce qu'est être indépendantiste et être nationaliste se sont révélées. Parce que quand on est dans un contexte, comment dire, référendaire, bien là, c'est sûr que c'est la question qui est très saillante puis celle selon laquelle les électeurs vont se répartir politiquement. Mais à partir du moment où c'est davantage la question de l'intégration, la question des signes religieux, tout ça qui a pris une place importante, bien, ça a révélé que dans le camp, si on peut dire, fédéraliste, ceux qui auraient voté non, si on leur avait posé la question, bien, il y en a quand même qui étaient attachés au fondement bleu du projet québécois. Puis je pense que le brassage de cartes électorales qu'on a vécu avec la montée de la DQ, ensuite la montée de la CAQ, aurait été impossible si on était encore dans une ère qui était très, très, très polarisée sur les questions oui-non. Mais là, cette nouvelle ère qui s'est ouverte a fait en sorte d'affaiblir grandement aussi le Parti libéral du Québec. Parce que c'était un peu le drame de la chose, dans la mesure où le Parti libéral s'est longtemps servi du fait qu'il n'y avait pas de majorité pour le oui, pour passer un agenda que je décrirais comme rouge, qui était assez impopulaire, dans la mesure où il y a toujours à peu près un tiers des Québécois qui communient à cette idée-là vraiment d'un État multiculturaliste ou même, comme dit Fukuyama, en lutte perpétuelle avec son propre peuple. C'est pas une vision qui est majoritaire du tout, mais peut-être que Philippe Couillard, c'est le meilleur exemple de ça, en fait. Parce qu'en 2014, par rejet, justement, de la vision très, très volontariste d'un Péladeau, par exemple, qui avait le point levé, il a été le premier ministre le moins nationaliste en peut-être un siècle, là, depuis Adélard Godbout, pratiquement. Et je vous renvoie à un entretien que M. Couillard a donné à Yves Boisvert il y a une ou deux semaines, où il expliquait ses raisons d'être fédéraliste. Puis lui, M. Couillard, il n'est pas fédéraliste parce qu'il pense que le projet québécois, l'État-nation québécois, comme je l'appelle, peut exister à l'intérieur du Canada comme pouvait l'être un Brian Mulroney. M. Couillard est fédéraliste parce qu'il aime l'idée d'une citoyenneté qui est divorcée de l'appartenance culturelle et nationale. Donc, sur ce point-là, il est beaucoup plus proche d'un Pierre Trudeau que d'un Brian Mulroney. Et en fait, c'est ça le projet rouge. Puis l'affaire, c'est que même chez les fédéralistes québécois, la plupart, c'est pas par adhésion envers ce projet-là qui est quand même assez comment dire, radical, qui a pris une place politique qui était beaucoup plus grande que celle qu'il occupe idéologiquement, parce qu'il s'est en fait servi de ces nationalistes-là qui n'étaient pas prêts à faire le saut vers l'indépendance, mais qui se sont réfugiés en lui, faute de mieux, pour en fait amener le Québec dans une direction dont la majorité ne voulait pas du tout.
Est-ce que c'était le début de la fin du PLQ?
Moi, je pense que c'était effectivement le début de la fin du Parti libéral. Puis dans une ère, comment dire, une ère identitaire, mais ce parti-là ne peut pas vivre seulement sur l'idée que le Québec doit rester dans le Canada. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas parce que certains croient à ça qu'ils veulent forcément le côté très antinationaliste qui vient avec le programme du Parti libéral. Puis à ce moment-là, c'est sûr que leur reconstruction n'est certainement pas achevée dans la mesure où ils sont effectivement en porte-à-faux avec la vision que porte encore une grande majorité de Québécois.
Très bien. Passons au conservatisme. Vous en parlez en long et en large dans votre essai. Premièrement, quelle est votre définition du conservatisme?
Ben, c'est une question qui est vraiment intéressante. Vous-même, vous avez écrit un livre pour définir le conservatisme.
Je la posais toujours en premier.
Et
aux différentes personnes.
Voilà, et vous avez eu sûrement autant de questions que autant de réponses que de personnes.
Quatre personnes, oui, tout
voilà.
À fait.
Donc, moi, je choisis d'en faire une définition qui est évidemment centrée sur les questions culturelles et identitaires, puis qui est peut-être adaptée au contexte québécois, mais ça ne m'empêche pas de citer des penseurs comme Edmund Burke ou Roger Scruton, qui sont quand même des grands noms du conservatisme, exactement. Donc, pour moi, c'est un peu une définition sur le plan philosophique qui se fait un peu en trois étapes. D'abord, il y a vraiment la question anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'individu, qu'est-ce que l'être humain? Est-ce que c'est un être qui est justement abstrait, qui se définit d'abord parce qu'il le différencie des autres et dans le fond que sa quête au final, ce serait justement de se construire lui-même en rupture avec son environnement, en rupture avec ses appartenances, en rupture avec son héritage? Ou à l'inverse, est-ce que l'être humain, c'est seulement un être enraciné avant tout et que son plein épanouissement, en fait, se fait quand il est en cohérence avec ses racines, avec ses ancêtres, mais aussi avec ses petits-enfants envers qui il veut léguer le patrimoine dont il est dépositaire? Puis ça, pour moi, c'est vraiment la question la plus fondamentale sur le plan philosophique qui va ensuite se décliner sur toutes sortes de plans. Après, la question, c'est un peu une question épistémologique, si on peut dire, en langage des philosophes. Est-ce qu'on a une perspective rationaliste? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un projet qui est d'abord existant dans le monde des idées, qu'on souhaite ensuite plaquer sur le réel et l'imposer s'il le faut? Vous aurez reconnu ma description du progressisme et de l'être abstrait, justement, qui n'existe pas dans les faits. Ou, à l'inverse, est-ce qu'on a une perspective plus empiriste où on conçoit que les traditions, les façons de faire, c'est d'abord et avant tout, comment dire, la sédimentation des expériences qui viennent par le passé et qu'à ce moment-là, il est un peu normal que certaines choses existent parce qu'elles existent et parce qu'elles conviennent à certaines personnes dans un certain contexte et que même si elles ne se justifient pas à l'aune de la raison et d'un projet qui serait vrai avec un grand V, on peut quand même les préserver, en être fier et les perpétuer dans le temps. Et donc, la dernière question qui est peut-être fondamentale encore plus, c'est le rapport au temps. Donc, est-ce que le temps, c'est le progrès vers un objectif qui est rationnel ou au moins dans l'émancipation de ce passé-là, de cette appartenance nationale culturelle? Ou à l'inverse, est-ce que le parcours des peuples et des individus, c'est avant tout la continuité puis de faire partie d'une chaîne et d'en construire les maillons suivants? Donc, vous voyez comment ces deux visions du monde qui s'opposent et vous remarquerez que je n'ai pas pu parler de conservatisme sans parler de progressisme. Parce que les deux sont des idéologies qui se répondent et l'un n'existe pas sans l'autre, comme il peut pas avoir de gauche s'il n'y a pas de droite. Mm-hmm. C'est grosso modo la définition que je ferais du conservatisme.
Est-ce que vous vous diriez conservateur?
Oui, bien, en fait, si j'ai écrit ce livre-là et que j'utilise le mot en C, qui est pas forcément bien vu au Québec, notamment à cause de toutes sortes de préconceptions qu'on a. On se dit, ah, être conservateur, c'est être contre l'avortement, contre le mariage gay.
Souvent aussi.
Oui, ou ça. Mais c'est tous des enjeux que j'aborde pas dans mon livre et qui m'intéressent pas à proprement parler, parce que le conservatisme, c'est aussi une idéologie qui est très contingente, qui va dépendre des traditions d'un peuple et de ce qu'ils sentent le besoin de conserver. T'sais, dans le cas des Québécois, quand on disait avec M. Beauchemin que c'est un des conservatistes qui est les plus à gauche au monde, c'est aussi un des conservatistes qui est peut-être le moins préoccupé par les questions sociétales, « family values », entre guillemets, qui sont le pain et le beurre des conservateurs américains, par exemple, bien avant les questions culturelles nationales, qui sont, qui ont été en fait pour la plupart du dernier siècle, une espèce d'arrière-pensée. Peut-être que le fait qu'on a des politiciens comme Trump maintenant qui ont beaucoup misé sur la question de l'immigration, ça a un peu changé des choses. Mm-hmm. Mais avant, c'était pas du tout le cas. Au contraire, on avait une espèce de conservatisme qui était, comme je le dis, un peu un progressiste de droite, sauf sur ces questions-là. T'sais.
Oui, tout à fait. Vous citez Éric Bédard, qui, lui, évoque George Grant, je comprends bien. Et vous dites que l'impossibilité du conservatisme aujourd'hui, c'est l'impossibilité de la souveraineté du Québec. Et ça, c'est la citation. Ensuite, vous ajoutez, nous ajoutons, pour notre part, que l'impossibilité du conservatisme au Québec, c'est l'impossibilité du nationalisme québécois. Que voulez-vous dire?
Ben, ce que je veux dire, ça, c'est la fin d'un chapitre qui s'appelle « Les limites du nationalisme progressiste », où je peigne essentiellement les nationalistes à la Québec solidaire qui... comment dire, se revendique d'une appartenance nationaliste qui peut justifier dans la mesure où il vise effectivement à faire du Québec un pays. Mais si le projet, c'est de faire du Québec un pays pour l'émanciper de lui-même, puis au final, pour atteindre un peu le même idéal des Rouges, cet idéal un peu rationaliste détaché dont je vous parlais, bien à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment un nationaliste digne de ce nom qui a des ancrages profonds? Moi, je pense que non. Puis je pense que, comment dire, le projet québécois puis le projet bleu, sa force, c'est justement qu'il est capable de se baser sur une définition, entre guillemets, conservatrice de la nation québécoise qui est héritée de penseurs comme Fernand Dumont, qui disait, par exemple, qu'on a besoin d'une culture francophone comme culture de convergence et qu'au final, le noyau du nationalisme québécois, sans dire que c'est la totalité de la chose, parce que ce serait faux, le noyau de la nation québécoise, c'est quand même cette appartenance-là francophone qui dure depuis plus de 400 ans. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas des ajouts qui peuvent venir s'y greffer puis en faire des très beaux ajouts. Par ailleurs, c'est le modèle un peu républicain français, mais il faut quand même conserver, comment dire, la conscience de ce noyau-là et de ce fondement qui est la base de tout le reste. Donc, si on n'envisage pas le nationalisme comme la préservation d'un certain héritage francophone en Amérique, est-ce qu'on peut vraiment être nationaliste si on a peur de se revendiquer de la tradition, de l'héritage, etc.? Si pour nous, c'est des gros mots, ben moi, mon avis, c'est que non.
Très bien. Bon, vous vous êtes dit conservateur. Un phénomène que je constate très souvent, qui est en partie le mien d'ailleurs, et donc dans mon livre sur le conservatisme, certains de mes invités en parlent aussi, c'est qu'on commençait à gauche. En fait, leur parcours intellectuel a commencé à gauche, évolué avec le temps, et par la suite sont devenus plus conservateurs. Est-ce que, bon, vous êtes relativement jeune, mais est-ce que vous avez un parcours intellectuel que commençait en conservatisme, vous y êtes resté, ou qu'est-ce qui vous a amené vers le conservatisme, ou avez-vous commencé à gauche tout simplement? Comme ouais. Plusieurs des conservateurs qu'on connaît aujourd'hui. Très peu de gens commencent à droite, en fait, conservateurs.
Je pense que c'est un peu un produit de l'hégémonie de la gauche dans ouais. les institutions sociales et culturelles. C'est-à-dire que quand on... comment dire? Quand on lit pas énormément, quand on s'initie au débat intellectuel, on a l'impression, justement, et ça, c'est peut-être le désavantage structurel des conservateurs, que le côté rationaliste des progressistes fait en sorte que ça semble être la voie de la raison. Mais rationalisme n'est pas raison. Et c'est comme si la vision plus conservatrice, plus enracinée, c'était comme une espèce de préjugé. Puis on se dit, ah mon Dieu, mais être intelligent, dans le fond, c'est être progressiste, parce que être conservateur, c'est juste se baser sur des préjugés, des impressions, puis un peu pas avoir accédé au stade de la pensée conceptuelle, là, je caricature. Puis c'est toujours le peine, mais c'est toujours le défi en fait d'avoir des penseurs conservateurs qui vont être capables d'exprimer dans le langage du rationalisme, dans l'abstraction de la pensée politique, qu'est-ce que c'est le conservatisme. Je suis très conscient que les esprits qui ont fait ça, puis les meilleurs comme Burke, comme Scruton, etc., l'ont fait quand même en terrain ennemi d'une certaine manière, parce que le terrain de la théorie, puis surtout le terrain quand on cherche à l'universaliser pour montrer les similarités entre plusieurs peuples, bien, on arrive dans un terrain qui n'est pas naturellement celui des empiristes et celui des conservateurs. Parce que justement, quand on a des idéologies qui sont très disparates et qui sont l'émanation normale de nations différentes, bien, il y a un fait tout à fait normal que ça ne soit pas parfaitement similaire, que ça ne soit pas pareil.
Ça ne peut pas l'être.
Mais exactement, ouais. Ça ne peut pas l'être, parce que sinon, ça deviendrait une espèce de projet progressiste concurrent. Mm-hmm. Donc, je pense que oui, c'est normal pour certains qui commencent à lire, qui commencent à s'intéresser, de commencer d'une certaine manière dans le camp progressiste, parce que c'est son terrain. Mais est-ce que ça veut dire que le terrain des idées doit être seulement le fait des progressistes puis des rouges au Québec? Moi, je pense que non. Puis le Québec, à ce niveau-là, de par notre filière nationaliste, fait en sorte qu'on a probablement un terrain idéologique conservateur et surtout national qui est beaucoup plus fertile et qui a une tradition beaucoup plus riche qu'ailleurs. Donc, à ce niveau-là, comme Québécois, en fait, le fait que notre nationalisme ait longtemps été à gauche, notamment avec le Parti québécois, je pense que ça a aidé à avoir cette tradition intellectuelle-là parce qu'on n'a pas eu, en fait, jusqu'à tout récemment, une espèce de pénurie de nationalistes dans les universités. Tu sais, je veux dire, les profs d'histoire qui étaient très nationalistes, on pense à l'École de Montréal, on pense aussi à l'UQAM pendant longtemps. Ça n'a jamais été vraiment un problème. Donc, des théoriciens bleus, on en a eu beaucoup, même s'ils étaient justement un peu plus à gauche que la moyenne ou que la normale des conservateurs. Peut-être que l'expérience québécoise est assez différente à ce niveau-là.
Vous avez mentionné Edmund Burke, notamment Roger Scruton aussi. Vous citez quelques penseurs conservateurs. George Grant, je crois, tomberait sous le camp conservateur aussi. C'est George Grant, canadien anglophone, Scruton et Edmund Burke, anglais du Royaume-Uni, pour préciser les choses. Si vous aviez à recommander quelques lectures, peut-être des auteurs québécois ou francophones, pour des gens peut-être de votre âge ou même plus jeunes ou plus vieux même, qui voudraient s'initier au conservatisme dans vos lectures, est-ce qu'il y en a qui vous ont frappé, là, vous recommanderiez avant d'autres, surtout quelqu'un, comme vous avez dit, là, qui peut-être qui fait face au discours dominant, comme on dit de nos jours, et qui voudrait s'en extirper un peu et peut-être toucher au conservatisme. Est-ce que vous auriez des recommandations?
À part mon livre,
bien sûr. Votre livre en premier, oui, bien sûr.
sans tomber dans la...
L'autopromotion, exactement.
Dans l'autopromotion, exactement. Je pense que le livre, comment dire, fondateur du conservatisme, celui d'Edmund Burke, ses réflexions sur la Révolution française, il y a vraiment quelque chose de passionnant là-dedans. D'ailleurs, il a été réédité dernièrement aux Belles Lettres dans une édition qui est très belle et que je recommande. Parce que Burke, quelque chose qu'on se rappelle peut-être pas assez dans sa vision, c'est qu'il définit aussi un art de gouverner conservateur. Hein? Il dit, par exemple, les personnes qui sont le moins qualifiées pour réformer l'ordre ancien, c'est ceux qui le critiquent. Parce que ceux qui passent leur temps à trouver les défauts, à trouver les fils qui dépassent, bien, sont plus prompts à couper radicalement puis ne verront pas les beautés qui méritent d'être préservées là-dedans. Et à l'inverse, quand il dit « Moi, je ne réformerai que pour mieux conserver et pour assurer un peu la pérennité de l'esprit de l'institution que je souhaite préserver, je rebâtirai dans le style de l'édifice. » C'est des réflexions qui sont très, très, très intéressantes puis qui sont tout à fait dans le champ philosophique, beaucoup plus qu'ancré, politique ou partisan, parce que je pense que ça nous aide en fait à construire un rapport qui est plus, peut-être plus mesuré, plus équilibré à la réalité. Puis c'est pour ça que le conservatisme, en fait, c'est toujours une doctrine du juste milieu. J'emprunte la formule à mon ami Alexis Tétrault, qui en parle dans son livre « La nation qui n'allait pas de soi », et qui faisait, avant moi d'ailleurs, la comparaison entre Edmund Burke et François-Xavier Garneau. Mm-hmm. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans où, comme je disais tout à l'heure, dans une ère moderne, une ère qui est foncièrement progressiste parce qu'on conçoit globalement le monde ainsi, c'est très important d'avoir un contrepoids conservateur qui permet justement de regarder les changements proposés d'un autre œil. Puis ça, Roger Scruton, dans un petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « The Uses of Pessimism », donc « Les usages du pessimisme », qui n'a pas été traduit malheureusement, il dit dans le fond, est-ce que, en notre ère, le fardeau de la preuve n'a pas été inversé au sens où si tu veux changer quelque chose, bien, prouve-moi que ton changement va être mieux. Parce que dans chaque innovation, la destruction est impliquée. Mm-hmm. Si je dis j'aimerais construire un nouvel édifice ici où on se trouve, forcément, il va falloir que je rase l'édifice. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas que du bon dans l'innovation. Il faut être capable de mesurer les avantages et les inconvénients et de dire, donc, est-ce que le nouvel édifice que tu veux bâtir à la place de celui-ci, est-ce qu'il va avoir toutes les qualités de celui-là ou est-ce qu'on va perdre quelque chose en chemin? Et si oui, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on va perdre. Hein? Scruton parle d'une mentalité de joueur compulsif. Il dit, c'est celui qui va gager sa chemise au casino en se disant, ah, ben je peux juste gagner le gros lot de toute façon. Mais dis non, il faut quand même être capable.
Tout.
Voilà, exactement. Il ouais. Faut pas tout risquer non plus. Il faut être capable de pondérer aussi les risques. Parce que parfois, tu sais, les conservateurs sont pas des statu quoistes. Ils sont pas des réactionnaires non plus. C'est pas l'idée que rien ne doit jamais changer. Mais au contraire, l'idée que, par exemple, c'est pas dans tout changement que ça va forcément être un changement heureux.
Tout à fait. En conclusion, je voulais vous emmener sur le terrain des prédictions, toujours hasardeux. D'après vous, peut-on sortir de l'axe autonomisme-souverainisme qu'on a en ce moment? On voit un peu que le PQ et la CAQ en particulier s'affrontent sur ces questions-là. De l'autre côté, on a bien sûr QS qui semble se rapprocher de PLQ, du Parti libéral du Québec, idéologiquement parlant. Comment voyez-vous les choses évoluer d'ici, 2026, mais peut-être au-delà?
Bien, je pense que d'avoir, l'étiquette de bleu, ça permet justement, comme je disais, d'élargir la tente du nationalisme. Puis à ce moment-là, la friction qu'on voit entre les autonomistes puis entre les souverainistes, pour moi, c'est un peu une querelle interne du courant bleu. Vous remarquerez que sur la vision du Québec, la vision incarnée de ce que devrait être le Québec, sur le genre de politique, sur la continuité de la culture, la différence entre le Parti québécois et la coalition Nier-Québec est un peu minime. Puis c'est pour ça qu'on voit le transfert d'électeurs qui est quasi direct. Donc, quand on voit une désaffection avec la CAQ, bien là, soudainement, il y en a qui ont changé au Parti québécois. Puis je pense que c'est pas anodin, puis que ça prouve un peu la thèse du retour des Bleus. Comme quoi, sur le fond, sur le projet culturel national pour le Québec, la différence entre ces deux partis-là est peut-être plus petite que ce qu'on peut penser. Mais à l'inverse, c'est sûr que je pense que les enjeux qui sont plus identitaires auxquels on est confronté en ce moment font en sorte qu'il va toujours exister aussi quelque chose comme un courant rouge. Puis il reste à voir où il va s'incarner. T'sais. Est-ce qu'il va s'incarner, par exemple, à Québec solidaire, ce qui n'est pas impossible dans la mesure où Québec solidaire a quand même combattu avec verve la loi 21, est assez réfractaire à l'idée de mieux contrôler l'immigration, par exemple. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas voir une incarnation renouvelée de cette manière-là du courant rouge? Moi, je ne le sais pas, mais je pense que, en fait, pour analyser les mouvements d'opinion qu'on voit en ce moment au Québec, il faut avoir un peu cet aspect bleu-là. Parce qu'en fait, si on voit tout, par exemple, selon le clivage, oui, non, le fait en 2018 qu'il y a des électeurs du PQ qui soient changés à la CAQ. On se dit, tous ces gens-là ont arrêté d'être souverainistes, par exemple. Puis là, tout le monde redevient souverainiste, le référendum est imminent. Je pense que c'est plus compliqué que ça, dans la mesure où, quand on regarde, par exemple, démographiquement, vous regardez les sondages, les électeurs du Parti québécois, les électeurs de la CAQ, souvent, c'est jeunes familles, aînés, francophones, grosso modo. Puis c'est des gens, qui ont une vision du monde assez similaire. Puis ils partagent un projet politique, c'est le projet bleu. C'est pour ça que j'essaye de théoriser la chose pour montrer un peu des similarités qu'on n'aurait pas vues selon notre grille d'analyse traditionnelle.
Mais pendant longtemps, du moins, sous l'air Lisée, au minimum, le PQ se croyait en concurrence avec Québec solidaire quand, en fait, il n'avait peut-être pas vu venir que c'était la CAQ leur plus grand adversaire politique, vu qu'ils ont le même terreau, ils ont la même démographie comme électorat potentiel.
Ben oui, mais je pense que vous avez raison, puis peut-être que ça explique un peu le déclin du Parti québécois à ce moment-là. Mais il y a quelque chose quand même d'intéressant dont je parlais dans le schisme identitaire, que je pense qu'il est pertinent à mentionner dans ce cas-ci.
Votre livre précédent.
Oui, dans mon livre précédent, exactement. Dans la mesure où le PQ et le PLQ avaient des coalitions qui n'étaient pas basées sur le courant rouge ou le courant bleu, comme on a pu en parler par le passé, ce qui faisait en sorte que, dans les deux blocs identitaires qu'on peut voir au Québec, c'est-à-dire globalement Montréal plus les centres-villes universitaires, ces deux parties-là avaient des assises. Par exemple, des circonscriptions comme Hochelaga-Maisonneuve, Mercier, Gouin, etc., qui sont à peu près sur la ligne orange à Montréal, le Parti québécois, ça a été les Châteaufort. Puis c'est même là qu'ils ont fait élire leur premier député. Même chose pour le Parti libéral, évidemment, qui ont toujours une partie de l'ouest de l'île de Montréal, mais qui avait quand même...
Une grande partie.
Mais des châteaux forts qui conservaient dans des régions comme l'Outaouais, par exemple. Mm-hmm. L'Outaouais, qui est une région qui est passablement nationaliste, mais qui n'est pas indépendantiste du tout, pour des raisons économiques qu'on peut comprendre. Il y en a beaucoup qui sont fonctionnaires fédéraux, etc. Ça crée l'incertitude. Alouette, mais vous comprenez le point que, dans le fond, ces partis-là avaient... Des coalitions qui étaient à la fois bleu et rouge. Évidemment, le Parti québécois avait une dominante bleue, le Parti libéral avait une dominante rouge idéologiquement, mais ça demeure pas moins que c'était peut-être des coalitions qui n'étaient pas justement pensées selon ce clivage-là que j'essaie de remettre en lumière. Mais à l'inverse, quand on regarde un parti comme Québec solidaire, les seuls endroits où il était capable de percer, c'est des villes universitaires au cégep. Puis j'inclus même Rouyn-Noranda, Témiscamingue, parce que c'est là qu'il y a l'UQAT. S'il n'y a pas de campus, ça montre la vision du monde que ces partis-là portent. Puis à l'inverse, moi, je ne vois pas la CAQ gagner Hochelaga-Maisonneuve demain, quoique on pourrait être surpris. Mais je pense que la recomposition fait en sorte que les coalitions électorales aussi sont changeantes. Puis est-ce que le Parti libéral d'aujourd'hui, qui a un peu basculé dans l'axe davantage rouge parce que c'est la base qui lui reste, est-ce qu'il va être capable d'aller rechercher l'Outaouais demain matin, par exemple? Ça, c'est une excellente question. Moi, je ne suis pas sondeur, je suis pas Québec 125, je ne peux pas vraiment le dire. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose sur le plan des idées à réfléchir là-dedans.
Étienne Alexandre Beauregard, Le retour des Bleus, les racines intellectuelles du nationalisme québécois, publié chez Liber le 22 janvier dernier. Vous avez aussi publié Le schisme identitaire, guerre culturelle et imaginaire québécois chez Boréal en 2022. Les deux sont en librairie. Mot de la fin, Étienne Alexandre Beauregard.
Je pense que Le retour des Bleus, c'est un appel à voir la politique québécoise différemment, mais c'est surtout un appel à peut-être se reconnecter sur les fondements idéologiques du projet nationaliste. Puis, à une ère où on se demande, à juste titre, qu'est-ce que ça veut dire être nationaliste, je pense que c'est intéressant de pouvoir avoir cette perspective-là pour comprendre, justement, les fondements culturels du projet québécois, entre guillemets, puis aussi de se reconnecter dans l'histoire plus longue du nationalisme. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser qu'un peu tout ça a commencé avec les années 60, avec la Révolution tranquille. Mais l'intérêt, justement, de remonter à François-Xavier Garneau, de remonter à Honoré Mercier, de remonter à Maurice Duplessis, ça permet de voir les continuités plus longues dans notre histoire qui peuvent peut-être mieux informer notre action pour l'avenir, puis aussi mieux comprendre les jeux d'idées. Bien sûr, moi, c'est un livre de philosophie politique, puis c'est un regard que je pose avant d'être un projet que je défends, même si je me définis globalement comme un bleu. Mais je pense que ceux qui se posent la question qu'est-ce que ça veut dire être un nationaliste et aussi qu'est-ce que ça veut dire être un conservateur au Québec pourraient trouver quelque chose d'intéressant dans ce livre-là.
Ils vont y trouver la réponse, oui, tout à fait. Merci à tous. J'aimerais vous rappeler... merci à Étienne Alexandre Beauregard, premièrement. Merci à toutes les personnes qui auront écouté cet entretien. J'aimerais vous rappeler de simplement appuyer sur le bouton « like » si possible, vous abonner à la chaîne également. C'est la seule récompense qu'on a, en fait, quand on publie des podcasts comme ça en ligne, des balados. Donc, je vous le rappelle, s'il vous plaît. Et au prochain épisode. Merci. Au revoir.